je m'arrête un instant pour te parler de ma vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit. Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, nager, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filantes.
Les étoiles filantes, c'est le titre de cette pièce des Cowboys Fringants.
Actualité culturelle, dès le début de 2019, l'univers sombre du romancier Patrick Senecal va se répandre sur les territoires anglophones avec une traduction en anglais des « 7 jours du talion » qui va devenir « 7 days » chez Simon & Schuster Canada. La maison d'édition vient d'acquérir en effet les droits de traduction pour ce titre, mais aussi pour 5150 rue des Ormes. S'est réjoui lundi l'éditeur francophone de Senecal, les éditions à lire. La traduction sera pilotée par Howard Scott et Phyllis Aronoff. En 2012, les éditions Quattro avaient traduit en anglais son « Contre Dieu »,« Against God ». Le rappeur XXXTentacion quittait un commerce de moto hier après-midi lorsqu'un homme armé s'est dirigé vers lui et l'a assassiné dans sa voiture à Miami, en Floride. Selon ce que rapporte TMZ, un témoin qui a vu la scène aurait constaté le corps inanimé et sans pouls du jeune artiste de 20 ans. La police a confirmé son décès quelques heures plus tard. XXXTentacion avait plusieurs problèmes avec la justice américaine. Il était d'ailleurs en attente de son procès pour violence conjugale impliquant sa copine enceinte. Un juge l'a autorisé à sortir de chez lui récemment pour qu'il puisse partir en tournée. En tout, une douzaine de chefs d'accusation pesaient contre lui. Même s'il n'est pas connu du grand public, l'artiste cumule tout de même des millions d'abonnés et de vues sur sa chaîne YouTube. Danny Boone revient à Montréal 2 mois après un passage au Québec pour promouvoir la sortie du film « La ch'tite famille ». Le comédien et humoriste français y remet les pieds pour donner la réplique à Jennifer Aniston et Adam Sandler dans « Murder Mystery », une comédie dans laquelle il campe un inspecteur chargé d'élucider une série de meurtres. Boone a révélé la nouvelle au micro de RTL lundi. L'acteur britannique Luke Evans apparaîtra également au générique du long-métrage qui sera relayé par Netflix. Murder Mystery brosse le portrait d'un policier new-yorkais, Sandler, qui amène sa femme, Jennifer Aniston, en voyage en Europe. Dans l'avion, les deux amoureux rencontrent un homme mystérieux qui les invite à passer une soirée sur le yacht d'un milliardaire âgé. Mais quand ce dernier est assassiné, ils deviennent les principaux suspects du meurtre. Le tournage du film a commencé hier. André Robitaille a partagé une triste nouvelle sur ses réseaux sociaux. Sa conjointe Martine Franck et lui se séparent. C'est sur Facebook que l'animateur et comédien a annoncé ce changement dans la vie de sa famille. « Il est important de vous communiquer directement ce que nous vivons, question de respect pour vous et question de respect pour nous et notre entourage intime. Nous souhaitons le faire à notre façon. C'est la fin de notre couple. Nous tenons à vous partager nous-mêmes la nouvelle, mais nous souhaitons traverser cette étape difficile en privé. » a écrit l'homme de 54 ans. André Robitaille et Martine Franck partageaient leur vie depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, je suis bien dans ma peau. Marie-Denise Pelletier a eu du mal à s'habituer au végétariat au cours de sa carrière. C'est dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, Bruno Lapointe. Je n'ai jamais pris d'année sabbatique depuis mes débuts. Évidemment, il y a eu des moments plus tranquilles et c'est parfaitement normal. Mais au fond, tant mieux si des gens profitent de fame pour me redécouvrir, poursuit la chanteuse souriante en entrevue avec le Journal. Marie-Denise Pelletier reconnaît tout de même qu'elle a eu une carrière atypique qui s'est déroulée tantôt sous les projecteurs, tantôt plus discrètement. Depuis qu'elle a remporté le premier prix d'interprétation au Festival international de la chanson de Green Bay en 1982, la chanteuse a enfilé les succès radiophoniques, notamment pour Une histoire d'un soir, Survivre ensemble à 17 ans. Avec aujourd'hui quelques 600 000 albums vendus au fil de sa carrière, elle s'est produite sur 4 continents avec des concerts en France, en Afrique, au Yémen et au Vietnam. Mais dans les dernières années, sa carrière a eu une moins grande portée médiatique avec des projets moins grand public. Et loin d'elle l'idée de s'en plaindre. « J'adore ce métier, j'adore être chanteuse, mais je déteste être une vedette. J'ai beaucoup de misère avec ça », déclare-t-elle. Aujourd'hui, je suis bien dans ma peau, mais à 28 ans, j'assumais très mal le végétariat, je le vivais difficilement. À l'époque, il fallait toujours être tiré à quatre épingles, mais moi, je veux pouvoir aller au dépanneur à l'heure que je veux en ayant l'air de ce que je veux. Cette liberté-là, j'y ai toujours tenu. J'aurais probablement été un peu malheureuse si j'étais devenue une méga star, poursuit-elle. Sa cote de popularité risque tout de même de regrimper cet été avec son rôle dans la comédie musicale Fame. Sur scène, Marie-Denise Pelletier devient Miss Sherman, une enseignante particulièrement autoritaire du célèbre High School of Performing Arts de New York. En acceptant ce rôle, la chanteuse effectue en quelque sorte un retour aux sources trois décennies après avoir prêté ses traits à Stella Spotlight dans l'œuvre de Luc Plamondon et Michel Berger, Starmania. La comédie musicale Fame est présentée jusqu'au 21 juillet au Théâtre Saint-Denis. Jay-Z et Beyoncé ont finalement mis leur récent album commun sur toutes les plateformes d'écoute en continu, y compris le géant Spotify, mettant ainsi fin à l'exclusivité offerte à Tidal, le service de musique en ligne de Jay-Z. Le couple le plus célèbre du monde de la musique a sorti samedi à la surprise générale l'album Everything is Love, où les deux artistes reviennent sur leur relation amoureuse qui inspire une grande partie de leur musique depuis plusieurs années maintenant. Charles Aznavour passera l'été en convalescence. Son attaché de presse a annoncé hier que le chanteur a annulé 5 concerts. Il devait remonter sur scène à Londres le 30 juin et qu'il reprendra sa tournée mondiale en septembre. Rappelons qu'Aznavour s'est fracturé un bras en faisant une chute à son domicile le 12 mai. Un mois auparavant, le chanteur s'était fait un tour de rein. Depuis ces accidents, Charles Aznavour est en bonne voie de guérison. Cependant, les médecins ont estimé que la rééducation sera plus longue que prévu, lit-on dans le communiqué de presse. À l'automne, le chanteur de 94 ans doit se produire au Japon, en Australie, en Belgique, en Suisse, ainsi que dans plusieurs villes en France. Le plus français des cow-boys américains, Lucky Luke, visitera Paris dans sa nouvelle aventure dessinée qui atterrira sur les tablettes en novembre prochain. Jules écrit le scénario d'un cow-boy à Paris et signe les dessins du personnage solitaire créé par Maurice et Goscinny il y a 70 ans. C'est la première fois que celui qui tire plus vite que son ombre quitte les plaines de l'Ouest américain pour découvrir la splendeur de la ville-lumière et le mode de vie de ses autochtones, les Parisiens, annoncé la maison d'édition d'Argo. Le plus récent album de Lucky Luke, La Terre promise, s'est vendu à 500 000 exemplaires dans le monde en 2016.
Écoutez, bonnes gens, la cruelle et douloureuse histoire des frères Dalton qui furent l'incarnation du mal, et que ceci serve d'exemple à tous ceux que le diable écarte du droit chemin. Tout petit à l'école,
à la place des crayons, ils avaient des limes. En guise de cravate, des cordes de lin. Ne vous étonnez pas, c'est leur tout premier crime. Puis d'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacadin, tacadin, y a plus personne.
Les années passèrent.
Ils s'étaient débrouillés pour attraper la rage et ficeler le docteur qui faisait les vaccins. Et puis contaminèrent les gens du voisinage, s'amusant à les mordre et accuser les chiens. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tagadin, tagadin, y'a plus personne.
Ils devinrent des hommes.
Un conseil, mon ami, avant de les croiser. Embrasse ta femme, serre-moi la main. Vite sur la vie, va te faire assurer. tranche-toi la gorge et jette-toi sous le frein. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y'a plus personne. Les jours l'ont augmenté de 20 centimes.
20 centimes américains.
Ils étaient vaniteux et avides d'argent. Ils se livrèrent eux-mêmes pour toucher la prime. Car ils étaient encore plus bêtes que méchants. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y a plus personne.
Petit clin d'œil à cette nouvelle concernant Lucky Luke et le prochain film qui paraîtra. Lucky Luke qui traversera l'Atlantique pour aller rencontrer, comme le disait si bien dans l'article, les autochtones, les Parisiens. C'était Joe Dassin avec ce tube de 1967, les Dalton.
Mise à jour dans la presse plus, Philippe Pichet faisant face à une démarche en destitution, Philippe Pichet a décidé de renoncer à son poste de directeur du service de police de la ville de Montréal, a annoncé la mairesse Valérie Plante. Il demeurera à l'emploi du corps policier en prenant un poste d'inspecteur chef. C'est le meilleur scénario pour tout le monde, a estimé la mairesse Valérie Plante peu avant d'entrer au conseil municipal. Il s'agit d'un règlement de la dernière heure, puisque les élus devaient se prononcer dans les heures suivantes sur la destitution. La renonciation met toutefois fin au processus, tout comme à la poursuite que l'homme avait intentée pour tenter de préserver son poste. Philippe Pichet avait été suspendu de son poste de chef du SPVM en décembre à la suite d'un rapport de maître Michel Bouchard sur la crise sévissant au sein du corps policier. L'enquête concluait que celui-ci n'avait pas su rétablir la situation alors qu'il était en poste. Cyberdépendance, reconnaître pour mieux soigner. En ciblant le trouble du jeu vidéo, l'OMS ouvre la porte à de meilleurs traitements. C'est un article de Marie-Lise Rousseau dans Le Devoir d'aujourd'hui. La dépendance aux jeux vidéo est désormais une maladie. Voilà une bonne nouvelle, se réjouissent des intervenants tant du côté de la communauté des gamers que du milieu de la santé au Québec. En ajoutant le trouble du jeu vidéo à son classement, l'OMS ouvre la voie à une meilleure reconnaissance de ce mal moderne, ce qui pourrait mener à de meilleurs traitements. Actuellement, il n'existe pas d'offre élargie de services pour soigner la cyberdépendance au Québec. Les régions y vont selon les demandes. Il est parfois difficile d'accéder aux ressources et il manque d'informations. Résume le coordonnateur des services professionnels au Grand Chemin, Miguel Thériault. Ce centre d'hébergement traite environ 250 cyberdépendants chaque année, majoritairement des adolescents. Une plus grande connaissance du problème permet d'espérer de meilleurs services, avance-t-il. Ça ne changera pas du jour au lendemain, mais ça nous dirige vers un ordre de services mieux structuré, dont l'ensemble des Québécois pourraient bénéficier, dit-il. Ce souhait est partagé par plusieurs intervenants, dont le président de la Fédération québécoise des sports électroniques, Patrick Pigeon. La dépendance aux jeux vidéo est dans le collimateur de la Fédération depuis sa fondation il y a 2 ans, précise-t-il. Elle préoccupe également la joueuse professionnelle réputée mondialement pour ses exploits virtuels, Stéphanie Harvey. Présentement, c'est une réalité très difficile à quantifier et à définir, constate la porte-parole du DreamHack Canada, le plus grand festival de gamers au pays. En rendant le sujet officiel, on aura de meilleures ressources pour comprendre et d'aider. Même son de cloche chez le président de la campagne électorale du Parti libéral du Québec, Alexandre Taillefer, qui a fait de l'accès aux soins de santé mentale son cheval de bataille depuis que son fils Thomas, qui souffrait de cyberdépendance, s'est enlevé la vie en 2015. Selon lui, il s'agit d'une occasion en or pour les parents d'établir un dialogue avec leurs jeunes. On ne se réjouit jamais quand il y a un problème de santé, souligne pour sa part le chercheur à la direction de la santé publique de Montréal, Jean-François Biron. Néanmoins, lui aussi applaudit la reconnaissance de cet enjeu qui permettra, selon lui, de mieux le définir et le comprendre. La présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Groux, abonde dans le même sens. Selon elle, la classification de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pourrait faire de la dépendance aux jeux vidéo un véritable enjeu de santé publique. L'OMS définit le trouble du jeu vidéo comme un comportement qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au jeu, au point que celui-ci prenne le pas sur d'autres centres d'intérêt et activités quotidiennes. Comme pour toute forme de dépendance, la ligne est mince entre l'usage récréatif et maladif, entre la passion et la maladie. M. Thériault observe chez les jeunes soignés au Grand Chemin les mêmes symptômes de sevrage que pour d'autres formes de dépendance. On voit énormément d'obsessions, d'angoisse et de stress. C'est très complexe de tracer une ligne, surtout au niveau des sports électroniques qui demandent beaucoup de temps, les joueurs professionnels s'entraînant plusieurs heures par semaine. En ayant une reconnaissance officielle, ça va être plus facile d'identifier qui est vraiment à risque, estime M. Pigeon. Le jeu vidéo est un puissant moyen d'évasion, note-t-il. N'importe quel jeu fait une coupure avec la réalité. Lui-même a déjà consacré une quarantaine d'heures par semaine à la pratique du jeu vidéo, tout en occupant un emploi à temps plein. Mais il n'est pas devenu accro pour autant. C'est une passion, mais je me contrôlais, explique-t-il. En 20 ans de gaming, il a toutefois vu certains de ses proches basculer dans la dépendance. « J'ai des amis qui ont tout perdu à cause du jeu », assure-t-il. Stéphanie Harvey insiste sur l'importance de maintenir un équilibre, tant dans le jeu qu'en dehors du jeu. La dépendance aux jeux vidéo ne concerne qu'une petite minorité des joueurs, a souligné l'OMS lundi. Le phénomène étant récent, il n'est pas encore documenté au Québec, mais on estime qu'il touche moins de 3 % des gamers dans le monde. Néanmoins, si l'organisation a ajouté le trouble du jeu vidéo à son classement, c'est parce qu'une croissance du problème a été portée à l'attention des experts, fait valoir Christine Groux. Ceci n'est pas une raison pour stigmatiser les joueurs, prévient-elle. Il ne faudrait pas sombrer dans un contexte où chaque fois qu'un parent voit ses ados sur une console, il s'inquiète et les amène en consultation. M. Biron rappelle que les adolescents sont à un âge caractérisé par la recherche de nouvelles expérimentations. L'usage peut être transitoire. Un jeune peut se faire de nouveaux amis et arrêter de jouer, cite-t-il en exemple. Maintenant que le trouble du jeu vidéo est officiellement reconnu, on peut s'attendre à ce que cette maladie soit davantage documentée au cours des prochaines années, avance Mme Groux. Québec travaille présentement à l'élaboration d'un plan de lutte contre les dépendances. La cyberdépendance est un nouvel enjeu dans notre société sur lequel nous nous penchons, a déclaré la directrice des communications du cabinet du ministre de la Santé, Marie-Ève Morneau, au Devoir. Miguel Thériault rêve que des outils comparables à DEP Ado, utilisés dans les écoles pour aborder les dépendances à l'alcool et aux drogues, voient le jour afin de mieux détecter les signes de cyberdépendance chez les jeunes. Ceux qui reçoivent des services actuellement sont ceux pour qui la situation est grave, soutient-il. Selon lui, la prochaine étape serait de reconnaître d'autres formes de cyberdépendance, au même titre que le trouble du jeu vidéo, notamment celle aux réseaux sociaux, qui touche beaucoup de jeunes adolescentes, observe-t-il. Alexandre Taillefer va un peu plus loin en souhaitant que davantage de responsabilités incombent aux compagnies qui développent des jeux vidéo, parfois conçus pour être addictifs. Ça ouvre la porte à la création d'une jurisprudence en la matière, avance-t-il. Bulletin 2018 de Participation, note de D+ pour l'activité physique. C'est Marie Allard dans le cahier ou la section pause de la presse. Il n'y a pas de quoi être fier. Le bulletin 2018 de Participation rendu public aujourd'hui attribue aux enfants et adolescents canadiens la note alarmante de D+ pour l'ensemble de l'activité physique. Seulement 35 % des jeunes de 5 à 17 ans satisfont au niveau recommandé d'activité physique, alors que la recherche démontre l'importance de bouger pour avoir un cerveau en santé. Il n'y a pas eu d'amélioration ou presque depuis le dernier bulletin en 2016, regrette Pierre Morin, directeur des opérations de l'organisme à but non lucratif Participation au Québec. Pour la première fois, un énoncé d'experts qui stipule que tous les enfants devraient être physiquement actifs de façon régulière pour améliorer leur processus cognitif, leur fonction cérébrale et leur santé mentale accompagne le bulletin. Les enfants qui bougent ont de plus longues périodes de concentration que ceux qui sont moins actifs, souligne Participation. Cette corrélation s'applique à tous, y compris à ceux qui présentent un trouble déficitaire de l'attention ou un trouble du spectre de l'autisme. Fait saillant du bulletin, mouvement sur 24 heures. À peine 15 % des enfants et adolescents occupent bien les 24 heures dont ils disposent chaque jour. Autrement dit, ils bougent assez, dorment assez et ne regardent pas trop les écrans, décrypte Pierre Morin. Chez les tout-petits de 3 à 4 ans, de 3 et 4 ans, cette proportion baisse à 13 %. L'un des gobe-temps qui nuisent aux enfants, ce sont les écrans. Les enfants de 5 à 11 ans passent 2,3 heures de temps de loisirs, excluant les heures de classe, par jour devant un écran, tandis que les ados de 12 à 17 ans y consacrent 4,1 heures par jour. C'est trop. Le maximum est de 2 heures, rappelle Pierre Morin. Chez les adolescents, il n'y a aucun respect de ça. Bonne nouvelle, 77 % des jeunes de 5 à 19 ans sont inscrits à du sport ou à des activités physiques organisées. Ils font de la natation, de la danse ou du badminton, une ou deux heures par semaine. C'est bien, mais nettement insuffisant. Il faut bouger tous les jours, souligne Pierre Morin. Il faut inclure l'activité physique dans notre quotidien, sinon on ne bouge pas assez. Il faut aussi que les parents donnent l'exemple aux enfants. Selon les directives canadiennes, les enfants de 5 à 17 ans doivent faire au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élevée par jour. Alors là-dessus, je m'en vais prendre une longue marche. Peut-être que je vais courir un peu. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis. On se retrouve demain.